Vous écoutez France Culture.
Divers aspects de la pensée contemporaine. Aujourd'hui, l'Union rationaliste, une émission proposée par Guy Bruy.
Bonjour. Aujourd'hui, à l'occasion de la sortie des numéros 181 et 182 de la revue Raison Présente, nous avons invité Ilana Levy, que je connais de longue date pour son rationalisme, et qui est un rationalisme militant, puisque c'est un homme engagé dans des combats de notre temps, donc je vais indiquer ses qualités. Il est conseiller du président Mahmoud Abbas. Il est ex-vice-ministre adjoint des affaires étrangères dans le gouvernement palestinien et il est membre du Conseil révolutionnaire du Fatah. Ilana Levy, je commencerai par vous demander d'une manière très générale quel regard vous portez sur la longue année qui vient de s'écouler.
La longue année qui vient de s'écouler en ce qui concerne notre région, l'Afrique du Nord et le Moyen-Orient, a très bien commencé. Elle est aujourd'hui enlisée, à l'exception de la Tunisie, qui est la seule réussite. C'est la seule de l'ensemble de ces soulèvements qui ait provoqué pacifiquement un changement institutionnel, constitutionnel et politique. On peut donc dire, quelle que soit l'opinion qu'on ait du résultat des élections, qui se sont bien déroulées dans la transparence et que c'est le seul soulèvement qui a donné des résultats positifs. Partout ailleurs, les soulèvements qui ont souvent été admirables, comme en Égypte, et pacifiques, comme en Égypte, ont débouché sur des crises, des convulsions, voire dans un cas extrême en Syrie, sur une véritable guerre qui dévore la société avec des dizaines de milliers de victimes. Et donc, on a parlé très rapidement de révolution arabe, de printemps arabe. C'était peut-être un peu rapide, parce que d'abord, la révolution, ça ne se fait pas en quelques semaines dans l'histoire de l'Europe. 1848 a mis 30 ans avant de se réaliser. Et donc, il y a des... Après les révolutions, il y a des mouvements contre-révolutionnaires, il y a des flux, il y a des reflux. Et là, il y a des difficultés extrêmes. L'Égypte est en chaos et déstabilisée. En Libye, rien, la démocratie n'est pas stabilisée, mais de toute façon, le régime libyen a été abattu par une intervention militaire occidentale, et pas par le peuple libyen qui a joué un rôle, mais un rôle de catalyseur et pas du tout de déterminant. Et alors, partout ailleurs, il y a eu cette espèce de, on a parlé d'effet domino. L'effet domino a été une grave illusion pour beaucoup de mouvements d'opposition. Dans les dictatures de la région, ils ont cru qu'on pouvait faire la même chose, même quand les conditions étaient bien différentes. Au Yémen, par exemple, il y a eu plusieurs mois de protestations de masse non violentes, qui étaient admirables, mais le pouvoir a réussi, en faisant jouer les rivalités intertribales, à armer ce conflit et à le transformer en guerre civile. Bon. Or, aujourd'hui, en Syrie, c'est ce qu'on voit. Alors on a beau dire, on ne sait pas qui tue qui et que fait l'opposition et tel ou tel groupe, mais quand on voit des hélicoptères lancer des roquettes sur les quartiers des villes syriennes, les hélicoptères, c'est ni des milices, ni des contre-révolutionnaires, ni des agents de l'impérialisme américain, rien du tout. C'est bien le régime. Or ce régime, nous, en tant que Palestiniens, on a une lourde expérience de contentieux. Avec ce régime, nous avons encore plusieurs centaines de prisonniers politiques palestiniens en Syrie. Et il y a eu des conflits tout au long des dernières décennies entre les ambitions hégémoniques du régime syrien et notre volonté d'indépendance.
Vous avez parlé d'effets domino. Et effectivement, ce qui a beaucoup frappé, c'est l'enchaînement de ces soulèvements à partir d'un pays. Alors, comment vous analysez cet enchaînement qui, en effet, paraît très mécanique ?
La relative facilité avec laquelle un mouvement populaire non violent a abattu la dictature en Tunisie et en Égypte. En Égypte, il n'a pas abattu la dictature, il a renversé le dictateur. mais la dictature militaire qui existe, qui pèse sur la société égyptienne depuis 1952, depuis la chute de la monarchie et les premiers pas des officiers libres qui allaient donner naissance au régime assyrien, l'Égypte est sous dictature militaire, sous loi d'urgence et loi martiale, et ça n'a pas changé. C'était comme ça sous Nasser, c'était comme ça sous Sadat, c'était comme ça sous Moubarak, et maintenant ça reste comme ça sans Moubarak. C'est-à-dire l'armée reste l'arbitre qui décide de ce qui se fait. Donc il n'y a toujours pas de démocratie stabilisée en Égypte. Alors dans les autres pays, chaque situation est particulière. Au Bahreïn, le pouvoir a réussi à focaliser l'opposition, focaliser la contradiction avec l'opposition chiite, c'est-à-dire à transférer la contradiction démocratique sur le plan confessionnel. Et donc à en faire une guerre sectaire, religieux, à caractère communautaire. Alors il y a des pays qui pour le moment sont au bord de la confrontation, c'est le Liban, où les tensions s'aggravent. Mais on peut voir qu'au Liban, ça reste, comme ça l'a été souvent dans l'histoire libanaise, une espèce de fonction secondaire de ce qui se passe en Syrie. Les premiers affrontements graves qui ont eu lieu au Liban le mois dernier étaient entre Alaouites et Sunnites, c'est-à-dire entre les deux composantes communautaires principales qui s'affrontent dans le conflit syrien.
Un problème profond et délicat est compliqué que je voulais aborder, tous ces mouvements révolutionnaires, dans la mesure où ils ont eu quand même un rôle positif par le seul fait qu'ils ont existé, qu'ont-ils apporté aux femmes?
Les mouvements insurrectionnels et soulèvements ont apporté aux femmes une participation à la lutte accrue et donc aussi la possibilité de se faire entendre. Maintenant, pour changer le statut des femmes dans ces sociétés, il faut des changements constitutionnels. Les changements dans la société civile, au niveau des mentalités, par l'éducation, etc., sont nécessaires, mais pas du tout suffisants pour modifier en bien le statut des femmes dans la société. Et la peur des secteurs les plus conservateurs des sociétés en question d'une avancée des droits des femmes à renforcer la misogynie, la haine des femmes, les violences et les agressions contre les femmes, y compris dans le mouvement populaire, ce qui est très inquiétant. Alors en Égypte, c'est flagrant, mais en même temps, en Égypte, comme dans la plupart de ces pays, en Tunisie aussi, il y a des associations de femmes nombreuses et intelligentes qui n'ont pas du tout baissé les bras, et qui entendent se battre pour approfondir les révolutions et les conquêtes démocratiques au domaine du droit des femmes, et donc aussi à des changements législatifs en faveur de l'égalité entre les sexes.
Revenons maintenant à la France, qui vient de connaître une période d'élections intense, présidentielle et législative. Et à votre avis, est-ce que cette nouvelle Assemblée, avec ce pouvoir socialiste, ouvre des perspectives nouvelles quant à la politique de la France face à tous ces mouvements révolutionnaires?
On peut d'abord espérer que la France va approfondir sa démarche traditionnelle dans la question palestinienne et avancer encore un peu. C'est que même le gouvernement Sarkozy, par le passé, avait passé outre aux menaces américaines et manifesté l'adhésion de la France à la demande de la Palestine d'être admise en tant que pays à part entière à l'UNESCO. C'était un précédent très très important, et nous espérons que la France va continuer à s'engager dans le sens de la reconnaissance juridique de l'État palestinien, parce que c'est un des éléments qui permettra la reprise des négociations sur des bases saines et rationnelles. Donc là, c'est un espoir. Par ailleurs, je pense que l'hégémonie assurée des socialistes sur le gouvernement, la présidence, l'Assemblée nationale, le Sénat, qui est un cas de figure assez rare dans l'histoire contemporaine de la France, puisque même Mitterrand n'avait pas le Sénat. Donc ça leur donne une assurance, une majorité et une stabilité assurée pour 5 ans. 5 ans, quand même, c'est long. C'est un bon moment, c'est-à-dire c'est suffisant pour changer, peut-être pas du tout au tout, mais changer en profondeur le discours dominant, la teneur du discours dominant et l'atmosphère culturelle. Donc je pense que la xénophobie, le racisme, l'arabophobie, l'islamophobie, qui ont été délirants au cours des dernières années du pouvoir de la droite, vont reculer. Dans le discours, je ne parle pas de la pratique. On a vu comment le président américain Obama a fait des discours absolument flamboyants de réconciliation avec le monde musulman à Ankara et au Caire, mais il n'a rien mis en œuvre. Il a continué à faire la guerre aux peuples et aux sociétés musulmanes en Iran, en Afghanistan, au Pakistan. Donc les musulmans ne l'ont pas cru. Mais il a changé l'atmosphère culturelle. Il a supprimé l'islamophobie en tant que doctrine d'État. Et je pense qu'un phénomène de même nature va se produire en France. C'est-à-dire que toute cette surenchère xénophobe qui a marqué la politique française au cours des dernières années va reculer. Alors les mouvements extrémistes ne vont pas disparaître, le discours xénophobe ne va pas disparaître. Ils risquent même, dans une certaine mesure, face à ce nouveau consensus, de se radicaliser. Mais en même temps, en se radicalisant, il va s'isoler. Donc oui, je pense qu'il y a une influence positive.
Question, je voulais vous poser parce que ne cachons rien, on en a parlé. Quand M. Fabius a dit qu'il n'était pas du tout d'accord avec la proposition de M. Kofi Annan de faire s'asseoir à une table de négociation sur la Syrie, tous les partis, y compris l'Iran, j'ai été un peu surpris que M. Fabius dise non, pas d'Iran.
Non, moi je crois que, en ce sens-là, je pense qu'il a raison. Il n'y a aucune raison que l'Iran soit médiateur internationalement cautionné d'un conflit syro-syrien. À quel titre? Donc, il faut parler à l'Iran, il faut parler à l'Iran du nucléaire, il faut parler à l'Iran de coopération économique et politique. Il faudrait même parler avec l'Iran de coopération antiterroriste. Parce que tous les groupes terroristes, Al-Qaïda et compagnie, sont des groupes sunnites fanatiques qui sont violemment opposés à l'Iran et violemment opposés au Hezbollah au Liban. Sur la question de l'Iran, Al-Qaïda est sur les mêmes positions que l'administration américaine. Donc moi, je pense qu'il faut parler aux Iraniens, il ne faut pas les ostraciser, mais il n'y a aucune raison de leur donner un rôle majeur dans une négociation sur la situation interne en Syrie.
Alors, j'ai dit que vous étiez rationaliste, et c'est pourquoi j'avais souhaité vous inviter. Je vous demanderai donc, voyons, dans votre travail d'analyste politique et de militant responsable, comment pratiquez-vous le rationalisme?
Écoutez, je pratique le rationalisme dans mon travail à divers niveaux. D'abord, ne pas prendre mes désirs pour des réalités, ni mes fantasmes et mes terreurs pour des réalités. Essayer de rester collé sur les faits eux-mêmes et leur quantité. Le conflit dans lequel je vis depuis toute ma vie, le conflit israélo-palestinien, israélo-arabe, est un conflit chargé d'irrationnel, de passion, d'amour, de haine, de sympathie, d'antipathie. Donc moi, j'ai toujours essayé de leur opposer la rationalité. C'est-à-dire de mettre entre parenthèses les sentiments et les émotions et d'examiner ce qui existe, ce qui est possible et ce qui n'est pas possible. Et donc, j'ai toujours essayé de m'attacher à cette démarche. Mais sur la rationalité, peut-être, je vais vous raconter une anecdote qui va au courant des délires irrationnels sur la soi-disant irrationalité de la civilisation arabo-islamique. Maxime Rodinson cite dans un de ses essais une source qui a été rapportée par Ernest Renan et qui est un dialogue entre deux commerçants musulmans d'Andalousie au XIIIe siècle. Et le premier, qui est resté en Espagne, écrit à l'autre qui est à Bagdad. « Ah, si tu es à Bagdad, peut-être as-tu vu les assemblées des théologiens. » Alors l'autre lui répond, à la maghrébine, à l'andalouse, parce que dans le monde arabo-musulman, les andalous et les maghrébins ont toujours la réputation d'être des rigoristes très stricts. Alors l'autre lui répond, oui, j'ai vu ces assemblées et c'est une épouvante. J'entre dans une salle et là, juifs, chrétiens et musulmans sont totalement mélangés. Et au bout d'un moment, un juif se lève et dit, vous connaissez les règles du débat. Aucun d'entre nous ne peut s'appuyer sur ces saintes écritures puisqu'elles n'ont pas de valeur pour les autres et tous les arguments doivent être tirés de la raison.
Il en avait réfléchi sur cette belle parole. Je vous remercie. Je rends la parole à Emmanuel pour conclure.
Vous pouvez réécouter cette émission de Guy Bruy et Ilan Halevi sur le site de l'Union Rationaliste où toutes nos émissions sont archivées. Vous pouvez aussi y voir les sommaires de nos publications, Raison présente et les cahiers rationalistes. Je remercie Guy Bruy et Brigitte Mazir et Éric Boisset qui ont rendu possible cette émission. Je vous dis au mois prochain.